Ok, ben bonsoir à tous. Nous allons cette séance parler de théorie de zones de densité, comme nous avons annoncé la semaine dernière. Alors cette théorie, c'est justement pour essayer d'expliquer la présence de ce genre de spirale. Vous voyez qu'il y a un bras spiral très cohérent d'un bout à l'autre de la galaxie et qui ne s'enroule pas. Il y a toujours le problème de l'enroulement que l'on ne voit pas ici. Normalement, on devrait enrouler dans une rotation 100 fois la spirale. Donc le plan de l'exposé, d'abord rappeler que toutes ces idées viennent d'abord de Lindblad, qui avait eu l'intuition d'une précession d'orbite, et puis décrire la théorie des ondes de densité qui a été inventée par Lin et Shu, qui sont deux astronomes d'origine chinoise, mais qui travaillaient à MIT, aux États-Unis. Et on verra que cette théorie des ondes de densité, qui est bien bâtie, bien cohérente, a quand même des défauts, c'est-à-dire que en fait, ce sont des paquets d'ondes qui se propagent et qui s'amortissent au bord des galaxies. Et la vitesse de ce paquet d'ondes fait qu'en une rotation, vous avez peut-être les ondes qui arrivent au bord et qui s'amortissent. Donc finalement, on n'a pas gagné beaucoup, sauf qu'on aura peut-être des phénomènes d'amplification qu'on va décrire, amplification de swing, des mécanismes de génération des ondes et de maintenance, et le rôle du gaz qui est très important. Et on va faire le lien avec tout ce qu'on découvre aujourd'hui en simulation numérique de galaxies pour savoir si vraiment il y a des ondes de densité ou pas. Donc déjà, comme préambule, il faut savoir qu'il y a deux sortes de galaxies spirales. Il y a des galaxies donc, avec un grand design, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un grand dessin très cohérent, comme la galaxie Messier 51, que vous connaissez très bien, et qui a des bras spiraux qui vont du centre au bord. Alors, il y en a deux, et qui sont très réguliers et non enroulés. Un des bras rejoint le compagnon, et on va voir que le compagnon est peut-être à l'origine justement de cette belle onde spirale. Et puis, il y a des ondes stochastiques qui s'y sont faites de petits bouts de bras spiraux et qui ressemblent un peu à le cappuccino que je représentais ici, c'est-à-dire vous avez du lait que vous mettez dans le café, vous remuez par rotation différentielle. Vous pouvez très bien voir des petits bouts de bras spiraux, mais qui ne sont pas une structure cohérente comme on a ici. Donc, les deux existent dans la nature. Donc, c'est sûr que toutes les galaxies n'ont pas des ondes de densité comme ici. On peut très bien avoir des formations d'étoiles stochastiques et contagieuses. Donc ces idées d'ondes de densité viennent à Bertil Lindblad, qui avait beaucoup travaillé dessus. Il n'avait pas mis en équation les ondes de densité, on va voir pourquoi. Mais comme on l'a vu la semaine dernière, il avait remarqué que certaines orbites étaient en résonance avec peut-être une onde spirale et que la précession de ces orbites était une quantité qui variait peu dans la galaxie, contrairement à oméga, la vitesse angulaire, qui avait une très grande variation, donc une rotation différentielle extrême. Donc il avait une petite idée avec une corrotation ici, une résonance de Lindblad interne ici, une résonance externe, mais ces idées n'étaient pas très, très évoluées. Il y avait peut-être une attraction quand même des étoiles dans la spirale qui était assez massive pour peut-être former une densité, mais ça s'arrêtait là. Donc on rappelle un petit peu l'idée principale, c'est que les orbites dans une galaxie spirale sont à l'ordre zéro lorsqu'on n'a pas de perturbation des cercles, l'approximation zéro. Un cercle est par exemple le cercle rouge que vous avez ici, donc l'ordre zéro de l'approximation. Et puis on a des petites perturbations qui sont des épicycles. L'étoile ou les étoiles parcourent des petits épicycles autour de ce cercle d'ordre zéro. Et vous voyez que si ici on est à un péricentre de cet épicycle, ça correspond au petit axe de l'ellipse et l'apocentre correspond au grand axe de l'ellipse. Donc finalement, toutes les particules qui forment ces épicycles sont sur une ellipse. Et alors l'ellipse, lorsqu'on regarde la particule à tourner de oméga, elle se trouve ici, l'ellipse a précessé un tout petit peu et lorsque l'orbite est allée jusqu'à 120 degrés, par exemple en oméga, eh bien on a précessé un tout petit peu. Donc finalement, l'ellipse tourne beaucoup moins vite que les étoiles qui vont beaucoup plus vite sur leur orbite. Et donc, ce taux de précession, on peut montrer que c'est oméga moins kappa sur 2, c'est ce qu'avait fait montrer Lindblad. Alors, ce n'est pas exactement Lindblad qui a inventé, on peut revenir au travail de Maxwell dans les anneaux de Saturne, qui avait découvert un peu le même principe, mais enfin, sur les galaxies, c'est Lindblad qui avait pensé à l'appliquer. Donc, ce qu'il avait vu, c'est que, en fonction du rayon, toutes ces fréquences, donc oméga, qu'est-ce que c'est? C'est la fréquence de rotation angulaire, c'est 2π sur la période, si vous voulez, ou bien V, la vitesse de rotation sur R. Et puis, kappa étant la fréquence d'oscillation sur un petit épicycle, on peut construire oméga plus kappa sur 2 et moins kappa sur 2, et c'est là qu'on voit que oméga moins kappa sur 2 est presque plat, est presque constant. On peut d'ailleurs voir qu'en général, une galaxie a une vitesse de rotation qui monte assez vite avec un oméga presque constant, et on voit qu'à ce moment-là, kappa égale 2 oméga, donc oméga moins kappa sur 2 est presque 0. Et ensuite, lorsque la vitesse de rotation est plate, on a un oméga moins kappa sur 2 qui décroît comme un tiers de oméga. Donc c'est exactement cette période-là que vous avez. Et si, par exemple, nous avons une onde spirale qui tourne comme un corps solide, à la vitesse oméga du pattern, oméga p, mettons, on peut représenter cette vitesse oméga p par un trait rouge, si vous voulez, et lorsqu'il rencontre oméga moins kappa sur 2, on a ces résonances, c'est-à-dire que l'orbite sera une ellipse, une orbite fermée. Donc vous avez deux résonances de Lindblad internes ici, une résonance de corotation lorsqu'oméga égale oméga p, et puis résonance externe de Lindblad ici. Donc on a ces résonances dans tout le disque de la galaxie. Et on avait vu que si, à un moment donné, à l'instant t égale 0, toutes ces orbites résonantes en forme d'ellipse sont situées sous cette forme d'orbite de spirale logarithmique, on voit que cette précession va être à peu près constante et on va garder cette spirale beaucoup plus longtemps que ce qu'aurait prédit la rotation différentielle. Donc pour la théorie des ondes densité, l'idée qu'avait eue Lin et Chou donc dans les années 60, c'était de faire une approximation d'ondes très très serrées. Alors cette approximation, on l'appelle WKB du nom des physiciens qui l'avaient inventé dans d'autres secteurs en fait. Ce n'était pas évidemment de la galaxie dont il s'agissait, peut-être des plasmas ou bien d'autres secteurs comme la mécanique quantique. On a une approximation de dire que la longueur d'onde est très petite. Alors ici, la longueur d'onde pour nous, pour une galaxie spirale ici, la longueur d'onde, c'est la distance entre deux pics. Donc lambda, ce serait la séparation entre deux bras. Alors, vous voyez qu'ici, lambda est de l'ordre de R, donc on a une spirale assez ouverte. Et ici, on a un peu plus serré, donc le lambda est petit devant R, le rayon de la galaxie. Donc c'est ce qu'on appelle approximation d'onde serrée. Alors pourquoi est-ce intéressant? C'est que lorsque vous faites le calcul d'une petite perturbation, donc l'état d'équilibre général, une particule qui est ici, on va être très peu sensible à tout ce qui est perturbé de façon lointaine. En effet, lorsque vous êtes ici, vous allez sommer quelque chose qui va être en cosinus θ, donc en moyenne qui va être nul, alors que si vous n'avez qu'une oscillation, vous êtes obligé de faire un calcul non local. Et ça, ce calcul non local est impossible de faire analytiquement, il faut faire des simulations numériques. Donc, si vous voulez l'approximation locale, faire une approximation en équation, vous êtes obligé de faire cette approximation d'onde très courte, donc lambda très faible devant R. Donc c'est dans cette approximation qu'on va écrire les équations. Alors quelles sont ces équations? On va prendre une petite perturbation à la densité de surface des étoiles, on ne prend que des étoiles, sigma, qui va être égale à sigma 0, une distribution surfacique à l'équilibre, et puis une petite perturbation sigma 1 qui va dépendre de R, et puis un terme en cosinus θ, donc on prend une exponentielle de i, etc., qui a une dépendance en azimut avec mθ. M, c'est le nombre de bras. Hein, vous avez deux bras, vous avez cosinus 2θ, trois bras, cosinus 3θ, etc. Et une dépendance temporelle, c'est ωt, c'est la vitesse à laquelle se déplacent les bras. Et à cette petite perturbation, vous allez, c'est-à-dire la densité d'étoiles, vous allez appliquer l'équation de Poisson qui relie le potentiel à la densité, donc Laplacien phi égale 4π Giraud qu'on a vu la semaine dernière, et puis l'équation de Boltzmann sans collision, car on a bien établi la semaine dernière que lorsque vous avez un système d'étoiles dans une galaxie, il ne rentre jamais en collision, donc vous n'avez aucun échange d'énergie entre étoiles, donc cette équation de Boltzmann sera le terme à droite, zéro, il n'y aura aucun échange entre étoiles. Donc dans cette système d'équations que l'on va développer, on va surtout prendre sigma 1 sur sigma 0 très petit, donc on va le linéariser et prendre seulement le terme du premier ordre, on va avoir des termes qui vont apparaître comme l'angle I, qu'on appelle de tradition pitch angle, l'angle de pitch si vous voulez, et qui est l'angle entre la spirale et puis le cercle. Donc vous voyez que I, si les spirales sont très enroulées, I est voisin de 0, enfin est petit en tout cas. Et puis il va y avoir deux sortes de spirales qui vont arriver, deux sortes de perturbations, des perturbations qui sont enroulées dans un sens et les autres dans l'autre. Alors on les appelle traînantes, si je peux traduire l'anglais de training ici, c'est-à-dire que comme la matière tourne dans ce sens, un oméga dans ce sens, la matière va arriver dans le côté concave, Donc l'onde traîne, si vous voulez. Alors que là, l'onde est en avance, l'onde est arrivée ici, est en avance. Je ne sais pas comment on traduit leading, mais enfin, c'est ce problème, il précède. On va garder le nom trailing et leading, car en fait, c'est dans ce domaine quelque chose qui est traditionnel, on ne le traduit pas. Donc dans cette approximation-là. Alors une fois qu'on a développé toutes ces équations, donc vous pouvez regarder les articles originaux si vous voulez être intéressé par ces équations, mais le résultat, on est reporté sur ce diagramme. Donc ici, on a reporté la fréquence nue. Alors qu'est-ce que c'est que la fréquence ? C'est la fréquence à laquelle la matière va rencontrer la spirale, la perturbation. Alors cette fréquence, évidemment, imaginez que vous êtes une étoile ici. S'il y a deux bras, vous allez rencontrer deux fois. Donc c'est normal que le nombre de bras M arrive en multiplicatif ici. Et puis on est dans le référentiel tournant avec l'onde, référentiel fixe avec l'onde. Donc évidemment, si oméga de la particule de l'étoile est égal à oméga de l'onde, on ne rencontrera jamais l'onde, on va tourner avec. Donc c'est normal qu'on ait nu égale 0 à la corrotation. Et pour normaliser ça, avoir une quantité sans dimension, on le normalise à la fréquence épicyclique kappa, juste un côté technique. Donc ici, on a apporté cette fréquence nue, qui, lorsqu'elle vaut 0, on a corrotation, et lorsqu'elle vaut 1 ou moins 1, on a ces résonances de Lindblad dont on a parlé. Ici, la résonance externe, on va voir, c'est symétrique avec les résonances internes. Donc ce qu'on voit, c'est que les solutions de ces équations sont portées par ce diagramme. On a plusieurs valeurs, plusieurs solutions, selon la valeur de Q. Alors Q, je vous le rappelle, on en a parlé la dernière fois, c'était le facteur de stabilité, le critère de Thumré. Lorsque Q, qui est le rapport de la dispersion de vitesse des étoiles sigma à une dispersion critique, lorsque Q égale 1, on a stabilité du disque par rapport à la fragmentation à petits morceaux, simplement parce qu'on a égalisé la longueur de Jeans, la pression qui stabilise les petites échelles, et puis les grandes échelles sont stabilisées par la rotation, et on a obtenu ce principe. Donc évidemment, ici, on voit que si le système d'étoiles est relativement froid, c'est-à-dire le plus froid possible, sigma égale sigma critique, donc assez froid, ça veut dire que la dispersion de vitesse est faible, et donc elle suit bien les spirales, on arrive à reproduire la spirale dans tout l'espace, dans toute la galaxie. Par contre, si c'est assez chaud, on a un peu de dispersion de vitesse, les étoiles dispersées arrivent mal à se aligner dans un bras spiral. Il faut être assez rangé, assez discipliné, si vous voulez. Et donc, plus il y a de dispersion de vitesse, moins on va développer d'ondes. D'où la zone qui va être interdite ici, plus le Q va augmenter. Donc, on a cette relation-là en fonction de Q. Ici, on a porté en abscisse la longueur d'onde. Et pour normaliser aussi à une grandeur, pour avoir une grandeur sans dimension, on l'a normalisé à cette longueur critique, qui est la longueur qui est celle de la autogravité. À partir de cette longueur-là, on a autogravité du milieu d'étoiles. À petite échelle, on a plutôt les dispersions de vitesse et une approche de Jeans. Donc cette zone interdite, là, on va voir exactement quelles sont les conséquences. Ici, je vais redévelopper la même relation. Ici, en fait, elle est symétrique. Donc pour mieux voir un peu ce qui se passe, j'ai redéveloppé la symétrie de ce système. Vous voyez, 0 est ici, et ce qu'on a en moins 1, c'est la résonance interne de Lindblad, ILR, et puis la résonance externe. Donc j'ai oublié de dire que dans cette longueur d'onde-là, pour les petites longueurs d'onde, on a des longueurs d'onde courtes, et normalement, on a fait l'hypothèse que lambda était petit, justement, pour écrire les équations. Donc on devrait prendre que cette branche-là, et non pas la branche qu'on appelle longue, parce que la longueur d'onde est grande ici. Mais en fait, on espère que notre approximation va aussi marcher que ce que la longueur d'onde soit petite. Enfin, on ne sait pas écrire les équations dans ces cas-là, de toute façon. Donc, on espère que ça va aussi marcher avec les ondes longues. Donc, si jamais cette zone interdite ici, vous voyez, si on a Q égale 1, 2, on a toute cette zone-là interdite. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que, bon, si Q égale 1, on a toutes les spirales dans toute la galaxie, et puis si Q égale 1.2, on aurait des zones où on n'aurait aucune spirale. En fait, on ne voit pas du tout ce genre de choses en réalité. Donc, que se passe-t-il ? En fait, on peut montrer dans les équations qu'il y a une petite analogie à des barrières de potentiel qu'on peut quand même, par effet tunnel, traverser. Il y a une analogie mathématique, hein, ce n'est pas du tout une analogie quantique. Et puis on verra que lorsqu'il y a du gaz aussi, ça permet de mieux franchir cette barrière. Donc finalement, les spirales vont franchir cette barrière de zone interdite. elle n'est pas complètement interdite. Alors la longueur critique, quelle est sa valeur exactement pour savoir un petit peu les ordres de grandeur? Vous voyez qu'on a reproduit ici pour un disque exponentiel d'étoiles, ce qui est toujours le cas. Les disques de galaxies sont en général exponentiels avec une échelle R0. Ici, on a reproduit la vitesse de rotation du disque qui représente bien les observations. Et puis, la longueur critique, c'est cette valeur-là. Donc, vous voyez que c'est à peu près 5 fois R0 au milieu du disque. Donc, ça veut dire que la longueur critique, elle est assez grande quand même par rapport à R. Ce n'est pas une petite grandeur. Et donc, ces ondes-là, que se passe-t-il lorsqu'on arrive à cette barrière? Il est possible qu'on ait donc des ondes. On n'a pas seulement une onde, on a un petit paquet d'ondes qui va se propager. Il est possible que, par exemple, on soit sur cette branche-là, à Q égale 1.2, et vous voyez qu'on va pouvoir se propager. Et si on se propage sur cette droite, on voit qu'on passe d'une onde longue à une onde courte. Donc la forme de l'onde va bouger en fonction de la propagation des ondes. Ici, on peut montrer qu'on démarre, par exemple, en A avec une onde longue, et puis lorsqu'elle arrive à ce point de corrotation, ici, on voit qu'on ne va pas pouvoir y arriver, donc on va être réfléchi, on va repartir en onde courte. C'est ces points A, B, C, D, E, là, qui sont le parcours qui se retrouve dans le temps. Temporellement, on va faire un petit parcours. Alors, cette forme des ondes, les équations, on les donne aussi. Lorsqu'on a résolu l'équation de dispersion, donc on a cette forme-là. Et on peut montrer qu'elle dépend aussi du facteur Q, c'est-à-dire que si la dispersion de vitesse des étoiles est plus ou moins élevée, on aura des ondes plus ou moins courtes ou longues. Par exemple, la longueur d'onde est proportionnelle au paramètre sigma de dispersion de vitesse pour une onde courte. Donc si on chauffe, c'est-à-dire on sait que toute perturbation, donc par exemple des ondes spirales sont des perturbations, toute perturbation va chauffer le système d'étoiles. C'est-à-dire que les étoiles au début, elles sont un système froid, complètement en orbite circulaire. Dès que vous les étirez comme un petit ressort, finalement, vous allez exciter des épicycles qui vont faire des dispersions de vitesse. Les étoiles n'ont pas de moyen de se refroidir elles-mêmes. Une fois qu'elles ont été excitées, elles restent dans une orbite axée excentrique et le système ne va pas refroidir. Donc si vous chauffez par une perturbation, par exemple un compagnon, une structure spirale, donc vous allez chauffer ici et donc on peut montrer que pour une onde courte, elle va devenir plus longue et inversement, pour une onde longue, elle va devenir plus courte. Donc on a ces formes de spirales qui sont données par la théorie. Alors ces ondes se déplacent donc en paquet d'ondes. On peut calculer aussi la vitesse du paquet d'ondes, qui est la dérivée de oméga sur dk, c'est un petit peu différent de la vitesse de phase. Et le gros problème lorsqu'on le calcule, c'est que le temps de parcours du paquet d'ondes de la galaxie est assez court, surtout quand on a un système d'étoiles, c'est de l'ordre d'une rotation ou deux rotations. Donc on a trouvé cette onde de densité pour essayer de résoudre le problème d'enroulement, et finalement on gagne un petit peu en temps, mais tout de même ça ne va pas être éternel, et si l'onde va s'amortir à l'extérieur, lorsqu'on arrive à la résonance de Lindblad, on est avec le même problème qu'au départ, c'est-à-dire on n'a plus d'onde, ou alors il faut examiner le problème de la réflexion ou des amplifications. Alors des amplifications, on en a, il y a une possibilité d'amplification. Par exemple, à la corrotation, c'est un point critique, on a vu qu'autour de la corrotation, il y avait peut-être une zone interdite. Il y a un problème, un avantage d'amplification. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'onde tournait moins vite que la matière à l'intérieur de la corrotation. Oméga démarre très grand, il est toujours supérieur à oméga p. Donc ça veut dire que dans le référentiel tournant, l'onde a une énergie et un moment angulaire négatif à l'intérieur de la corrotation. Et puis le contraire, à l'extérieur, l'onde va tourner moins vite, donc on a quelque chose de positif. Enfin, la matière va tourner moins vite, on a quelque chose de positif. Donc l'onde a une énergie positive à l'extérieur, de même qu'un moment angulaire. Donc on voit très bien que si on réfléchit l'onde à la corrotation, on va pouvoir amplifier, on va le voir sur les autres transparents, on va pouvoir amplifier quelque chose à la corrotation. Alors, on va examiner, par exemple, un paquet d'ondes qui va se propager. Par exemple, il va commencer de façon enroulée, de façon leading, avec une onde qui, ici, on a un sur lambda, donc lambda, on a des ondes longues ici et courtes. On va prendre des ondes courtes leading, on va voir qu'elles vont se réfléchir à la cohortation, et ici elles vont être amplifiées énormément, on va le voir, et puis elles vont se retrouver amorties ici. C'est un petit peu le calcul qu'a fait Toumeret dans les années 81. Ici vous voyez une galaxie qui commence avec une onde très courte, le lambda est tout petit, très enroulé, et vous voyez qu'il est leading, il est enroulé à l'envers si vous voulez, et puis il va se dérouler en se propageant. On arrive à la corrotation ici, il va être amplifié un tout petit peu. Et ce qu'on voit, c'était une surprise, on a un autre phénomène d'amplification lorsqu'on passe de leading à trailing. Lorsqu'on change l'enroulement des bras, on a ce qu'on appelle amplification du swing, la balance si vous voulez. On voit qu'on amplifie énormément, vous voyez l'amplitude est représentée par les contours ici de densité. On a énormément de contours de densité, c'est-à-dire qu'on a une onde très forte lorsqu'on a quelque chose de long, et puis trailing, cette fois-ci, il est vraiment dans le sens direct. Et puis peu à peu, il va se propager de l'autre côté, il va redevenir long et mais très court, et là, il va s'amortir avec un aplatissement de lambda à l'extérieur. Alors, swing, qu'est-ce que c'est, hein ? On a d'autres exemples de swing, si vous voulez. Vous pouvez penser à une balançoire, vous pouvez penser à une danse. Peut-être le plus proche, c'est le golf, hein, on a un swing. Exactement, c'est un peu ça qui se passe dans la structure spirale. Ici, on voit un petit peu aussi de ces exemples. Alors, que se passe-t-il exactement ? On le voit un petit peu sur ce dessin-là. Ici, on a un petit bras, un bras spiral qui est un peu grisé. Et puis, les étoiles ici sont représentées par des petites flèches, enfin, le mouvement des étoiles. Donc, ici, on part avec l'onde qui est leading. Le rayon est ici et la tangente est ici. On voit que l'angle de pitch, c'est 30 degrés, c'est l'angle entre le rayon et la spirale, 30 degrés. Donc au début, c'est leading, et puis on voit que les étoiles, on dirait qu'elles vont sortir du bras. Mais elles ont un épicycle, et l'épicycle a tendance à les faire re-rentrer dans le bras. Et c'est ça le phénomène de swing, si vous voulez. Ici, on a un bras qui devient trailing, qui change de sens, ce qui fait que l'épicycle est encore dans le bras. Donc on a l'impression qu'on accompagne. On accompagne le changement de sens. Et donc, au bout de cet épisode-là, le changement de leading à trailing, on a toujours les étoiles dans le bras. Donc, la densité est encore amplifiée. On a encore beaucoup d'étoiles dans le bras lorsqu'on est trailing. En fait, c'est ça le swing. On pense que cette amplification, elle existe toujours. Si vous avez, par exemple, un petit compagnon dans une galaxie, localement, vous allez les exciter. Vous allez exciter ce petit bout de bras. Et même si on n'a pas une onde densité cohérente sur toute la galaxie, vous allez toujours avoir cette amplification qui va rester. Donc cette amplification est assez importante. Et puis, vous avez des réflexions. Alors, par exemple, on dit qu'elle va se réfléchir au centre. Cette petite analogie géométrique vous montre comment on peut réfléchir une onde. Par exemple, on arrive avec une onde ABC qui est trailing, traînante, hein, puisqu'on tourne dans ce sens. Et puis, si on suppose que la vitesse du paquet d'ondes est la même en fonction du rayon, on va passer de A en A', de B en B' et de C en C' lorsqu'on va arriver au centre. Et vous voyez que si je joins A', B', C', j'ai une onde qui tourne dans l'autre sens, qui est maintenant leading. Donc on voit que de ABC trailing, on va se réfléchir au centre en une onde trailing qui va repartir dans l'autre sens. Donc ça, c'est un petit exemple pour montrer comment la réflexion peut se produire. Et on a parlé de l'amortissement de Landau. En fait, c'est un amortissement qui existe dans beaucoup de physique, hein, pas seulement pour les étoiles, mais beaucoup pour les plasmas ou pour d'autres secteurs de la physique. On peut montrer que dans le système d'étoiles, il n'y a pas de dissipation. Donc il n'y a pas de rayonnement, on ne perd pas d'énergie. Ce qu'on va faire, c'est un échange d'énergie entre l'onde et les matières. Mais que va-t-il se passer ? Il va se passer un déphasage en fait des étoiles. Au début, on a une onde et puis ensuite, on n'en a plus parce que toutes les orbites ne sont plus en phase. Elles sont complètement déphasées, leurs phases sont mises au hasard, randomisées. Et on peut montrer que si on a une distribution maxwellienne de vitesse, ce qui est à peu près le cas, on a plus, vous voyez dans cette gaussienne, là, ici on a une vitesse de l'onde, on a toujours plus de particules qui sont plus lentes que l'onde que de particules qui sont plus rapides. Alors, les plus lentes, elles vont prendre de l'énergie à l'onde pour s'accélérer, et les plus rapides vont donner à l'onde. Mais en général, on va prendre à l'onde. Donc finalement, l'onde va s'amortir par ce processus. Donc c'est ça un petit peu le principe physique de cet amortissement. Alors, au point de vue l'amplification, quel est le taux d'amplification de ce swing, qui est le principal taux d'amplification pour les ondes spirales? L'estimation a été faite dans plusieurs cas, mais en gros, on a à peu près toujours la même chose. Ici, c'était un disque de Zang avec deux bras et un disque avec V égale constante, où on avait le plus d'amplification. Alors, ce qu'on a apporté ici, c'est le taux d'amplification en fonction de ce paramètre X, qui est le rapport de lambda. Alors, sinusi, I étant le pitch angle, c'est-à-dire qu'on projette lambda sur la spirale ici, et lambda sur lambda critique de self-gravité du disque. Donc, c'est évidemment, on a un pic à chaque fois que X est de l'ordre de 2. Dès qu'on est loin de cette longueur critique de self-gravité du disque, on n'a plus du tout d'amplification. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, évidemment, si le disque a beaucoup de dispersion de vitesse, c'est-à-dire que Q est élevé, on a beaucoup moins d'amplification parce que les dispersions de vitesse empêchent aux étoiles de s'aligner dans les bras spiraux. Donc évidemment, plus Q est petit, plus on aura un taux d'amplification assez élevé. Donc là, tout le monde est d'accord, on peut essayer d'estimer le taux d'amplification. Et donc, Julien Etoumbré ici, ce travail-là, c'était la perturbation d'une densité, mettons un petit carré au centre, là, tout à fait théorique, mais juste pour voir un petit peu la réaction d'un disque d'étoile à une surdensité ici, on voit qu'en effet, s'il y a une rotation dans ce sens et un cisaillement dans l'autre, on voit qu'on a cette amplification du swing là qui se produit et on a un bras trailing dû à cette perturbation. Et cela, cette amplification, elle n'a pas besoin d'être cohérente sur tout le disque, elle est petit morceau par petit morceau et on en voit un exemple ici. Alors, on va suivre un petit peu ce paquet d'ondes, le but étant de savoir si, par le jeu des réflexions, on a vu que le paquet d'ondes y durait assez peu, et on aimerait avoir une certaine permanence de la spirale. Donc, est-ce qu'on pourrait, par le biais des amplifications et des réflexions, avoir peut-être une cavité et peut-être des ondes stationnaires qui durent plus longtemps, qui durent au moins deux ou trois réflexions au centre, etc. Alors, le problème, ça va être le suivant. Alors, ici, on a vu, en fonction de rayons, autour de la corrotation, on a une zone interdite. On a, ici, on a mis kappa, mais en fait, kappa, c'est 2π sur lambda, hein, donc c'est lambda crit sur lambda. Ici, on a des ondes longues, ici, on a des ondes courtes, et puis on poursuit le paquet d'ondes, là, en fonction de son parcours, de court à long, et, etc. Et le diagramme résultant, si vous voulez, qu'il faut comprendre pourquoi on a amplification à la corrotation, c'est celui-là. Si on a une onde qui a une énergie négative puisqu'elle est à l'intérieur de la corrotation et que dans cette barrière-là, la corrotation, elle peut être transmise avec une onde qui sera donc à énergie positive puisqu'elle est à l'extérieur. À ce moment-là, par conservation d'énergie, vous voyez que l'onde réfléchie, elle a une plus 1 et moins 1, ça va faire moins 2, de manière à ce que moins 2 plus 1 fasse moins 1. L'énergie incidente égale exactement ce qu'on a à la fin. Donc par conservation d'énergie, on voit qu'on a amplifié l'onde qui réfléchit, elle a deux fois plus d'énergie que la précédente. Donc, vous voyez, c'est ça le principe. Et aussi la même chose avec le moment angulaire, hein, que j'appelle Emma. Et on sait qu'une galaxie, sa tendance, c'est de concentrer sa masse. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, elle a une plus basse énergie, elle voudrait perdre son énergie. Et lorsqu'on a un système de disque en rotation, le principal obstacle à concentrer la masse, c'est le moment angulaire. Il y a la rotation qu'il faut évacuer. Et donc, cette spirale-là, si elle est amplifiée, elle va pouvoir justement évacuer ce moment angulaire et on va pouvoir faire évoluer la galaxie dans le sens où elle tend à évoluer, c'est-à-dire avoir une énergie et moment angulaire minimum. Alors, Marc, justement, dans les années 67, avait envisagé plusieurs scénarios qu'il appelait WASR, c'est-à-dire un petit peu des cavités résonantes, un peu comme là, dans un laser, où on a une émission stimulée et une amplification dans une cavité. Ici, on a une émission stimulée, si vous voulez, à la corrotation, pour faire l'analogie. Et puis, un certain nombre de scénarios, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un petit peu celui-ci qu'on a envisagé, une onde longue dans le trailing qui ressort ici et qui est amplifiée à la corrotation. Donc, le principal amplification, taux d'amplification, est obtenu dans ce système-là, justement, le trailing, long, short et short, c'est-à-dire court ici, et on peut avoir même des énergies plus grandes que plus 1. Ici, si vous avez plus 3 et moins 4, ça vous donne toujours moins 1, donc ça va, on a toujours conservation d'énergie. Et c'est dans ce système-là qu'il avait envisager un scénario de cavité d'amplification, donc une onde longue qui est stimulée à cette chlorotation, qui sort, qui va sans doute être amortie là-bas, à la résonance externe, mais qui est amplifiée à chaque tour et qui va être réfléchie au centre. Donc on peut penser qu'on va maintenir un peu plus longtemps cette onde spirale par l'amplification qu'il y a, qui va compenser les amortissements. On peut aussi penser à des modes, en fait, des modes, c'est-à-dire des ondes stationnaires, exactement comme sur une corde. Vous n'avez pas que des ondes progressives, mais des ondes stationnaires. Alors, pour avoir des ondes stationnaires, il faudrait justement qu'il y ait une interférence constructive et non pas destructrice, donc qu'il y ait un multiple entier de longueur d'onde, sachant que la réflexion donne un déphasage de pi sur 2, on a cette relation-là. Et à ce moment-là, on a ce qu'on a des maxima et des minima d'intensité dans la cavité. On a comme des nœuds et des ventes, si vous voulez. Et certains ont vu dans les galaxies spirales ces genres de modes, c'est-à-dire des intensités variables. Ça n'existe pas partout, hein, c'est assez rare. Alors, l'influence du gaz dans la persistance des ondes est très intéressante parce que, en fait, quand on regarde les galaxies spirales, on a vu Messier 51, on a vu d'autres galaxies, il y a toujours du gaz. Pour l'instant, on a considéré que les étoiles. Et lorsqu'on regarde le gaz, on a en effet un grand avantage. Ici, c'est un travail relativement récent de Gauche et Jog. On a cette relation des ondes de dispersion, toujours la fréquence nu en fonction de lambda, exactement en parallèle pour les étoiles ici. Mais vous voyez que les étoiles, ce serait la courbe en noir pour une certaine dispersion de vitesse. Et lorsque vous ajoutez 5% de gaz, vous avez la courbe en orange. En bleu, c'est 10%, puis 15% et puis 20% de gaz. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que la zone interdite, elle se peuple de plus en plus. C'est-à-dire qu'on arrive à la chlorotation et bientôt, rien ne sera interdit. Donc on voit qu'avec le gaz, on peut rentrer dans la zone interdite. C'est là le gros avantage. Et puis aussi la vitesse des ondes, la vitesse de propagation des paquets d'ondes, qui est la dérivée, ici on peut regarder avec la dérivée de cette courbe, elle est plus faible, elle est divisée par 2, donc l'onde va disparaître beaucoup moins vite. Donc on a une persistance qui va être augmentée si on a du gaz, ça c'est aussi un avantage. On a aussi dans les possibilités d'oméga P, c'est-à-dire la vitesse des ondes, une plus grande gamme de possibles. Et par exemple, pour Messier 51, certains avaient essayé de regarder quelle était la vitesse des ondes de Messier 51. Ce n'est pas facile du tout à mesurer, c'est quelque chose qui est indirect. Ce que vous mesurez par effet Doppler dans une galaxie, c'est la vitesse des étoiles, mais ce n'est pas la vitesse de l'onde. La vitesse de l'onde, il faut d'autres méthodes, on verra quelles sont. On n'a pas de mouvement propre pour savoir à quelle vitesse se déplace l'onde, parce que ce serait beaucoup trop long. Mais on a d'autres méthodes et ça ne corrélait jamais. Mais par contre, avec le gaz, on arrive à faire correspondre les vitesses d'oméga qu'on mesure. Et puis, il y a aussi un gros avantage, c'est que le gaz, les ondes gazeuses, ne s'arrêtent pas à la résonance externe de Lindblad. Dans les ondes, dans l'équation de dispersion de Lin-Échaud, on voyait qu'à l'OLR, c'est-à-dire à la résonance externe, pour les étoiles, alors les étoiles ici, voici une galaxie qui a une belle onde de densité. En rose, il s'agit du gaz, que l'on voit avec le satellite Spitzer en infrarouge moyen. Et puis en bleu, ce sont les étoiles. Donc les étoiles s'arrêtent là. Et normalement, à la résonance externe, il n'y a plus de spirale dans les étoiles. On voit que le gaz continue. Donc là, c'est en effet quelque chose qui a été prédit par la physique des ondes de densité. Elles deviennent les ondes plus courtes, mais elles vont peut-être s'amortir dans des ondes de choc, des formations d'étoiles. Mais on voit très bien sur cette figure que, en effet, les spirales sont en gaz beaucoup plus étendues que les ondes d'étoiles. Alors, au centre de la galaxie, par contre, on a à peu près la même chose. On aura peut-être dispersion, on aura peut-être cavité, etc. Mais au centre, de toute façon, les étoiles dominent au point de vue potentiel, donc le gaz ne va faire que suivre les étoiles. Alors, l'amortissement des ondes dues au gaz, ça c'est aussi un point important. Toumeret avait fait une petite analogie pour montrer pourquoi, lorsqu'on devient très non linéaire, on va dissiper l'énergie. Alors, vous avez comme analogie un certain rideau de pendules, si vous voulez, accroché à une tringle ici. Tous ces pendules oscillent. Et lorsqu'on a une petite perturbation, là, sinusoïdale, très faible, ils vont osciller, mais ils ne vont pas se toucher au maximum. Donc vous restez linéaire et vous n'avez aucune déperdition d'énergie dans ce cas-là. Lorsque vous avez une perturbation qui est beaucoup plus ample, vous voyez que les pendules vont se cogner ici, ils vont perdre leur énergie par choc. Et donc on a un état non linéaire et c'est exactement ce qui va se passer dans le gaz d'une galaxie. On va atteindre très vite le régime non linéaire parce que le gaz a une très faible dispersion de vitesse. Le fameux Q de Thomerade pour le gaz est très faible. D'où on va avoir une onde de choc et on va amortir les ondes. On va perdre beaucoup d'énergie. Le gaz, lui, il rayonne et il dissipe. Il est dissipatif contrairement aux étoiles. Donc ce que prévoyait par exemple déjà Roberts en 69 et ensuite d'autres dans les années 80, c'est ce schéma-là en fonction de l'azimut. Lorsqu'on prend l'azimut ici, θ dans une galaxie, on va trouver deux bras, pour une onde très enroulée ici, deux bras. Que va-t-il se passer ? Le gaz dans le puits de potentiel, ici on a un potentiel qui varie assez peu, donc un puits de potentiel ici pour le bras, mais le gaz est très responsif et donc il va former une onde de choc. Et cette onde de choc va être visible par une traînée de poussière et on le voit en effet, une traînée de poussière noire au centre des bras. Et puis le gaz va être comprimé, va former des étoiles, c'est ce qu'on voit aussi dans MC51, on voit les étoiles au-delà de la traînée de poussière, et puis les vieilles étoiles vont se trouver là, et on va recommencer au bras suivant. Donc on a un peu cette prédiction d'échelonnement entre gaz, jeunes étoiles, vieilles étoiles. Alors on voit à l'œil que c'est un peu ça qui se produit, ici on voit le bras spiral en noir. C'est vraiment la poussière qui trace la densité des étoiles qui est du gaz qui est très très grande. On a aussi du champ magnétique, je ne montrerai pas, mais le champ magnétique est comprimé, donc il est beaucoup plus fort ici. Et puis les jeunes étoiles, c'est ce qui est en rose, parce que rose c'est l'émission d'H-alpha, c'est le gaz ionisé par les jeunes étoiles, vous en voyez ici. Et puis peu à peu, on a quelque chose de diffus qui est plutôt les vieilles étoiles. Donc il semblerait que cette progression soit vérifiée. En fait, c'est une idée général, mais on voit qu'il y a des exceptions. Ici, on a des branchements, on voit des traînées de poussière qui font la liaison de deux bras. On a des jeunes étoiles à l'interbras, donc c'est pas complètement. La vue n'est pas aussi jolie que la théorie le voudrait. Mais on a quand même une idée à grande échelle qui est vraiment celle-ci. Alors, le gaz moléculaire va nous donner beaucoup de renseignements là-dessus. Ce qu'on sait, par exemple, MC51 en gaz moléculaire, voici une photo, c'est le centre. On voit que ça suit vraiment les traînées de poussière. Cette carte a été obtenue avec la molécule CO, parce que H2, la molécule H2 ne rayonne pas du tout. On prend la molécule la plus abondante, CO, après H2, qui est excitée par H2, et on voit que l'émission de cette CO, qui est en millimétrique, à 2,6 mm, vraiment trace les zones de poussière très très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le taux de formation d'étoiles dans une galaxie est exactement linéaire avec la densité surfacique de gaz moléculaire. Ici, on s'attendrait à voir, par exemple, quelque chose, la formation d'étoiles exactement proportionnelle à cette carte-là. Vous voyez qu'ici, on a une droite, qui est la droite de pente 1. En gros, ces trois droites montrent qu'en 100 millions d'années, on a consommé tout le gaz, si on continue avec ce taux de formation d'étoiles. Et là, ce sont des relations qui sont obtenues avec des tas de galaxies. Cette galaxie monte plusieurs points, donc on a quelque chose de statistique. Alors, quand on regarde sur MC51, on a beaucoup de gaz, mais quand on a un traceur de formation d'étoiles, on voit qu'il n'y a pas de formation d'étoiles. 24 microns, qu'est-ce que c'est ? C'est la poussière qui est chauffée par les étoiles en infrarouge moyen. Ce n'est pas l'infrarouge très lointain, parce qu'à ce moment-là, on aurait tout le gaz. Mais là, on a juste la formation d'étoiles. Le gaz serait très chaud. Et on voit qu'il y a des trous ici, justement là où il y a les maxima de gaz moléculaire. Alors, que se passe-t-il ? Ce serait possible d'identifier ces zones à la corrotation, parce que si ce gaz est à corrotation, il ne rencontre jamais les bras. Donc on n'a aucun choc à cet endroit. On a des chocs qu'avant la corrotation ou après, mais pas à la corrotation. Donc il est possible qu'il y ait une corrotation ici. Bon, alors le problème, c'est qu'on n'a pas qu'une seule corrotation, on en a peut-être une autre à l'extérieur. Il est possible qu'il y ait plusieurs ondes avec des vitesses différentes dans cette galaxie. C'est ça qui complique la fête, mais là, on a clairement un endroit où il y a énormément de gaz, mais sans formation d'étoiles. Donc là, vraiment, pas de choc. Alors, cette relation entre choc, gaz moléculaire et la comparaison avec les données peut s'obtenir aussi par les simulations numériques. Ici, on a une simulation de Dobbs et al., d'autres en ont fait aussi, d'une galaxie spirale où on a imposé une spirale à ondes serrées. Vous voyez, la longueur d'onde ici, lambda, est petite, très enroulée, petite par rapport au rayon. Et on regarde ce que fait le gaz d'hydrogène moléculaire dans cette galaxie en prenant en compte la seule gravité du gaz, les formations d'étoiles. Et ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement un choc, on a une instabilité, peut-être une instabilité de Rayleigh-Taylor aussi, peut-être de Kelvin-Helmholtz, du cisaillement. Et on a des tas de branchements qui se produisent. On a aussi de la formation d'étoiles qui va se produire à l'interbras. Donc ce n'est pas aussi simple que la vision très simple des années 70 où on avait un choc, formation d'étoiles et puis des vieilles étoiles. On a des jeunes étoiles qui sont prédites un peu partout. Et c'est ça la réalité, en fait. La réalité est plus compliquée que la théorie. Alors pour engendrer ces ondes, par exemple Messier 51, on a vu que c'était un des exemples d'ondes les plus régulières. On pense que, compte tenu de tout l'amortissement que l'on a étudié, l'amortissement du gaz dans les ondes de choc, l'amortissement dû au l'amortissement de Landau, etc., il nous faut trouver quelque chose qui maintienne ces ondes en permanence. Alors, soit par les cavités et l'amplification de swing, soit aussi par un mécanisme extérieur. Alors ici, on a l'interaction avec le compagnon. On sait qu'il y a une interaction de marée entre les deux. Et on sait que certainement, ces interactions de marée vont produire quelque chose. Il y a aussi un autre phénomène dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est aussi quelque chose qui va amortir les ondes. C'est le fait qu'on peut avoir des ondes longues. En général, on a des ondes plutôt longues que courtes. Hein, quand on voit Messier 51, ce n'est pas vraiment très serré. On n'a que lambda qui est de l'ordre de R. Et quand on a des ondes longues, on a un effet à grande échelle, non locale. Le puits de potentiel de la matière n'est pas exactement identique à la position de la matière. Ici, on a une simulation où le puits de potentiel est tracé par la ligne fine et puis la densité des étoiles par les plus ici. On voit qu'il y a un déphasage et que ce déphasage, il est plutôt... la matière est en avance à l'intérieur de la corrotation et puis en retard à l'extérieur. À quoi est dû ce déphasage, en fait ? Dans ce sens-là, on voit très bien que les étoiles sont sensibles aussi à la perturbation externe. Elles sont à égalité en fait, de distance à la perturbation interne et externe. Et donc, il y a la non-localité due au fait que l'onde n'est pas très très serrée qui fait qu'on n'a pas de phase. Pour le gaz aussi, on a quelque chose qui n'est pas en phase. Et à l'intérieur de la corrotation, on est en avance et à l'extérieur, en retard. Donc finalement, on a un échange de moments angulaires entre les deux. La matière va être soit attiré, soit repoussé, selon la distance par rapport à la corrotation, et on va amortir l'onde par cet effet. Donc on a aussi des moyens d'amortir l'onde. Donc pour essayer de tester si l'interaction de marée peut être un pourvoyeur d'ondes de densité, en effet, Toumra avait fait ce calcul qui montre, alors dans le cas où il n'y a pas d'autogravitation, il avait déjà montré dans les années 70, que même avec des particules tests, c'est-à-dire sans prendre la gravité, la seule gravité des étoiles, on peut former deux bras spiraux par les interactions de marée. On va le voir tout à fait que les interactions de marée ont une géométrie d'ordre 2. Par exemple, sur Terre, vous avez les marées de la Lune, vous avez deux marées par 24 heures, tout simplement par le même effet. On va le voir tout de suite. Et puis, lorsque il avait pris une perturbation de 4%, un compagnon qui faisait une force de marée 4% fois la force à l'équilibre, et on n'avait pas beaucoup de perturbations. Quand on prend en compte la seule gravité, vous voyez que 1% ou 2% suffisent pour qu'on ait une très très forte réponse en onde de densité de Messier 51, par exemple, dans le cas de l'interaction. Alors ça, c'était un mystère, parce que la force de la spirale, elle est encore plus grande au centre qu'au bord. Pourtant, l'interaction de marée, elle vient du bord, puisque le compagnon est au bord. Donc ce puzzle en fait a été résolu, c'est qu'il y a un paquet d'ondes qui se propage vers le centre et qui s'amplifie beaucoup plus au centre qu'au bord par l'effet de swing dont on a parlé. Donc on peut avoir instantanément plus de spirales, plus d'ondes spirales au centre qu'au bord, alors que la perturbation vient du bord, ce qui est un petit peu paradoxal. Alors ici il y a d'autres variations. Ici vous voyez s'il n'y a pas d'autogravité, ça dépend beaucoup de la durée aussi à laquelle on applique la perturbation du compagnon. Par exemple, si le compagnon a une trajectoire directe et accompagne la rotation, on aura une résonance. Donc on va avoir une interaction de marée qui sera plus longue. Si elle est rétrograde, elle sera beaucoup plus courte. Donc la durée était ici 0,5, 1, 2 en quantité sans dimension. Vous voyez que si l'interaction de marée dure plus longtemps, on a une structure spirale beaucoup plus forte et amplifiée. Donc ce petit test de selle gravité montre qu'en effet, une interaction de marée peut très vite reproduire les ondes de densité qu'on voit dans MC51, qui sont encore plus fortes au centre qu'au bord. Ça, c'est ce mystère a été souvent longtemps un obstacle. Alors, pour quantifier un petit peu ce problème d'interaction de marée, voici un petit peu le petit dessin qu'on peut se faire. Hein. On a un compagnon qui est vers la droite, et ça, c'est le disque cible de MC51, par exemple. Ce qu'on a, c'est qu'on a une force d'attraction qui est plus forte d'un côté que de l'autre, puisque le compagnon est de ce côté, et que si vous retirez, si vous mettez dans le référentiel tournant avec le compagnon autour, évidemment, la force d'inertie ici, dans ce référentiel, va compenser exactement la force d'attraction au centre. Donc ici, vous aurez zéro. Mais si vous soustrayez cette force d'inertie en tout point, vous voyez que vous avez un excès de force ici et un défaut ici. Donc on voit très bien sur ce petit diagramme que les forces de marée sont en effet à deux perturbations de chaque côté, étire le système et que vous allez avoir deux bras spiraux. Donc voilà pourquoi, à chaque fois que vous avez une interaction de marée, vous avez M égale 2, c'est-à-dire deux bras spiraux, ce qui n'est pas le cas dans toutes les ondes de densité. Vous pouvez avoir trois bras, quatre bras, mais ici, si on voit un compagnon très proche, on va avoir certainement deux bras spiraux. Alors quand on regarde la différentielle de l'interaction de gravitation, 1 sur D2, la différentielle, ça va être 1 sur D3 avec un petit D qui est la taille de la galaxie. Et on peut aussi le calculer en potentiel. Le potentiel, c'est quoi? C'est Gm sur R. Alors pour chaque particule, ici P, on va calculer le rayon R en fonction de R2 plus D2, etc., cosinus θ, cet angle-là. Et si on veut, dans le référentiel de la galaxie, c'est-à-dire qu'on soustrait la force d'inertie, cette force d'inertie, c'est quoi? C'est Gm sur D2, avec un petit vecteur unitaire ici. Et cette force, elle dérive du potentiel qui est Gm x. Vous dérivez x, vous avez juste le vecteur unitaire. Donc x, c'est quoi? C'est R cosinus θ. Donc on voit que lorsqu'on somme ces deux potentiels pour être dans le référentiel au repos, le terme en cosinus θ, si je linéarise, parce que R est tout petit devant D, on va avoir ce terme cosinus θ qui va s'annuler avec celui-ci et trouver seulement le terme d'ordre supérieur en cosinus 2θ. Donc on a ce phénomène de marée qui dépend de deux bras en cosinus 2θ, qui est équivalent à une barre, par exemple, qui a un potentiel en cosinus 2θ. Alors ça, c'est valable dans le plan de la galaxie. Si on a une interaction de marée dans le perpendiculaire au plan de la galaxie, on voit que le terme en cosinus θ ne s'annule pas. Donc dans la direction perpendiculaire, on va avoir un terme m égale 1, cosinus θ, c'est-à-dire une espèce de gauchissement en crêpe du plan ou un warp, comme on voit ici, c'est-à-dire un plus et un moins, c'est tout. On n'a pas une géométrie m égale 2, mais une géométrie m égale 1 pour la perturbation du plan due à un compagnon, par exemple. Donc maintenant, je vais m'intéresser aux simulations numériques plus récentes qui essaient de voir si vraiment on a des ondes de densité qui correspondent à la théorie lorsqu'on a des interactions de marée. Alors ici, encore des calculs pris sur Dobbs et collaborateurs qui essaient de représenter MC51 et voir si on obtient bien la théorie des ondes de densité. Alors ici, vous voyez que dans la simulation, on obtient un petit peu un bras qui va un peu du centre-bord, donc on semble avoir quelque chose qui n'est pas trop stochastique. Par contre, quand on mesure, on essaie de mesurer oméga, la vitesse de rotation de ces ondes. Alors là, on a tout, on a les mouvements propres, puisqu'on a un petit film même qui vous montre comment se propagent ces bras. Eh bien, il n'est pas constant. Il n'est pas constant, il est même un peu supérieur au taux de précession oméga moins kappa sur 2 qu'on avait pensé être justement la vitesse des ondes. Donc ça ne correspond pas tout à fait. On a quelque chose qui, pour le gaz et pour les étoiles, vous voyez les deux valeurs, c'est quelque chose qui varie en fonction de rayon. Donc ce n'est pas tout à fait l'équilibre. On a quelque chose un petit peu qui pourrait être sur une portion de bras, comme une onde de densité, mais c'est tout. Ça, c'est perturbant. et les tests aussi expérimentaux de d'échelonnement des gaz, du gaz dense, des étoiles jeunes, des étoiles vieilles, etc., n'est pas tout à fait reproduit non plus dans les simulations. Ici, on avait quatre simulations, une qui est une spirale fixe qui a été forcée dans une galaxie, donc une spirale très enroulée. Alors, on voit en bleu les étoiles jeunes, on voit en bleu c'est le gaz, je pense, les verts les étoiles jeunes et rouges les étoiles anciennes. Là, on a une succession de ces trois âges qui est tout à fait régulière, c'est tout à fait ce qu'on s'attend. Pour une barre aussi, si on a une galaxie barrée, la barre se déplace à une fréquence presque solide, presque constante, qui représente bien une onde de densité. Donc on a bien vert, bleu, rouge, c'est à peu près bon. Pour une spirale floculante, ça, on s'attend bien à ce qu'il n'y ait aucun ordre, donc c'est tout à fait au hasard. Et par contre, pour MC51, ou son modèle dans, par ordinateur, c'est assez chaotique. On n'a pas vraiment un ordre parfait entre le bleu, le vert et le rouge. On a quelque chose qui ne correspond pas complètement à l'onde de densité. Donc ça, c'est assez... ce n'est pas parfait. Alors voici les quatre simulations en question, hein, sans les couleurs des âges des composants. On voit la spirale forcée, là-bas, la spirale floculante, et puis MC51. Pour la spirale forcée ici, on voit bien la succession entre le bleu qui est le plus jeune, et puis ensuite le vert, et puis la succession de tous les âges, les traceurs différents âges. La même chose ici, on voit que pour une spirale forcée, on a la succession entre les divers âges. Par contre, pour la galaxie avec interaction de marée, censée reproduire Messier 51, on a peut-être des ondes spirales de vitesse différente, mais on n'a pas une seule onde de densité. De même pour 628, qui paraît être une très très belle représentation de densité, on a essayé de regarder dans les observations les décalages qu'il y avait entre le gaz atomique, les formations d'étoiles, 24 microns est un bon traceur de formation d'étoiles, et on voit qu'il n'y a aucun déphasage. Entre le gaz moléculaire et la formation d'étoiles non plus, et quand on regarde un peu ces déphasages, ils sont tout petits, est toujours inférieur à la résolution des observations. Alors peut-être qu'on n'a pas assez de résolution, mais enfin tout de même, c'est tout petit en degrés. Donc il ne semble pas avoir de décalage. Donc il y a quand même une réalité qui est quand même assez différente de la théorie. Ici, on verra dans une simulation avec une très haute résolution angulaire de Florent Renaud et al., qui fera un séminaire la semaine prochaine, pourquoi les instabilités du gaz peuvent peut-être expliquer une grande partie ce phénomène. Ici, vous voyez une simulation de galaxies barrées avec des bras spiraux. Et on voit que le gaz est très, très instable. Et il y a des instabilités de Rayleigh-Taylor. Ici, quand on fait un zoom, on voit toutes ces perturbations, ces extensions d'un bras à l'autre. Ici, quand on fait un zoom, on voit ce qui se passe. Ici, il y a une instabilité de Kelvin-Helmholtz qui est entre deux fluides qui ont un certain cisaillement. Alors normalement, on devrait voir toutes les étoiles se former dans le bras, mais le gaz se disperse en plusieurs alignements ici, qui sont des extensions, et finalement, les étoiles se forment en dehors. Donc on peut former des étoiles en dehors des bras spiraux. Donc voilà une raison pour laquelle on ne trouve pas exactement ce qu'on attendait avec l'onde de densité, ici les vitesses qui correspondent. Donc finalement, c'est peut-être pas complètement... ce n'est pas un problème, un mystère, que le gaz ne représente pas les ondes de densité correctement. Pourtant, c'est les ondes de densité qui l'ont excité à former ces structures. Ici, on voit un bras, un zoom d'un bras, où on voit ces simulations sont très sophistiquées. Non seulement on forme des étoiles, mais aussi on forme des supernovae qui soufflent le gaz. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais le gaz, en arrière, il est soufflé, et on voit des cônes comme ça qui ont soufflé le gaz. Donc, finalement, le gaz... est soufflé d'un côté et les étoiles se forment de l'autre et reculent en quelque sorte. Donc on a des tas de mouvements qui sont dus à la formation de l'étoile, au feedback, et qui contribuent à la complexité des bras et qui contribuent au fait que dans les observations, finalement, on ne voit plus la succession de tous les événements qu'on pensait. Alors quand on simule les spirales floculantes, de façon voulue, on voit même des petits bouts de bras qui ont une amplification de swing. Donc même dans le cas où on veut absolument avoir quelque chose de complètement stochastique, on voit que ces petits bouts de bras sont amplifiés aussi. Donc c'est ce qu'on avait vu au tout début. Le swing marche aussi pour les petits morceaux. Et quand on regarde dans cette simulation stochastique la fréquence à laquelle tournent ces petits bouts de bras, ils tournent un petit peu comme oméga, donc ils sont en effet perturbés par la rotation différentielle, mais très souvent, il y a des petits bouts qui sont constants. Donc on a des petites ondes de densité qui sont constantes pendant un petit moment, mais ensuite qui suivent oméga, donc qui suivent la rotation différentielle. Donc il y a un tout petit peu d'ondes de densité et de stochasticité. Donc on ne peut jamais avoir les deux cas extrêmes, on a toujours un mélange. Donc les barres engendrent-elles des ondes de densité? Oui. Là, je pense qu'il y a... On en parlera aussi dans les séminaires suivants. Ici, vous avez une galaxie barrée où il y a les spirales qui sont exactement au bout de la barre, qui sont en phase avec la barre. Certains ont regardé sur des centaines ou des milliers de galaxies et ont essayé de mesurer l'amplitude du contraste de la spirale ici en fonction du contraste de la barre. Et il y a une certaine corrélation entre les deux, donc barre et spirale, ici en fonction de rayon de la barre, etc. Donc il y a bien statistiquement une corrélation. Et puis, en effet, il y a tellement de galaxies, il y a peut-être 200 000 galaxies, que ça a été donné aussi à classifier et à étudier par tous les citoyens qui aimeraient bien trouver des galaxies sur Internet. Vous pouvez cliquer et regarder le Galaxy Zoo. Et ces citoyens ont montré qu'il y avait des corrélations en fonction, par exemple, le nombre de bras en fonction de la masse de la barre ou le nombre de bras en fonction de la masse du disque. Ce qu'on voit, en fait, ce qui compte, c'est la masse du disque ici. Le pitch angle n'a pas l'air de varier beaucoup. Par contre, en fonction de la barre, on a montré, en fonction de l'angle de pitch ici, c'est-à-dire l'angle entre le cercle et la spirale, qu'il y avait une certaine corrélation. Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont des statistiques qu'on obtient avec des centaines de milliers de galaxies et ce Galaxy Zoo permet d'obtenir ça. En fonction de la couleur aussi, là, on a vu que dans la spirale, on avait un certain décalage entre le gaz, la poussière, les jeunes étoiles en bleu, les vieilles étoiles. Donc la couleur va nous donner cet échange. Et ce qui a été observé, c'est qu'il y a en effet des ondes d'un bout à l'autre de la galaxie. Et puis pour certaines jeunes étoiles, on a des angles de pitch différents. Donc on voit bien qu'il y a peut-être plusieurs ondes qui sont superposées dans la galaxie. Et c'est intéressant de voir que peut-être la superposition des ondes nous empêche de voir un seul pattern d'ondes de densité. Alors, y a-t-il des ondes de densité ou pas? Là, c'est encore une statistique sur la position des traceurs, H-alpha, UV. Alors, H-alpha trace les jeunes étoiles jusqu'à 10 millions d'années et l'UV trace des jeunes étoiles jusqu'à 100 millions d'années. Donc, vous avez plusieurs âges ici. Et en fait, vous ne voyez aucun décalage. Donc, c'est ça le problème. Y a-t-il des ondes de densité? Et si on veut mesurer oméga, alors il y a plusieurs méthodes. J'en parlerai peut-être une autre fois. Treiman et Weinberg ont proposé une méthode pour calculer oméga en supposant qu'il y avait une continuité sur une orbite et ont montré que oméga n'était pas tout à fait constant, même dans une galaxie fortement barrée. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi le cas de Messier 81 qui est une onde de densité type. Si on la déprojette, ça vous donne ça, avec le compagnon qui est ici. Et il semble qu'il y ait plutôt deux ondes de densité dans cette... deux ondes avec deux oméga différents et pas une seule. Donc ça, c'est encore quelque chose, un tabou qui tombe ici. Donc je résume. La théorie des ondes de densité qu'on a présentée aujourd'hui, ça explique quand même bien la formation des spirales qui durent plus, qui sont cohérentes et qui ne sont pas enroulées. Mais le paquet d'ondes se déplace relativement vite et les ondes s'amortissent. Donc finalement, on n'a fait que reculer notre problème de durée. Donc il faut des mécanismes d'amplification qui sont par exemple les compagnons, comme ici vous avez un exemple d'onde de densité qui est excitée par le compagnon, ou bien alors des barres dont on parlera plus tard. Mais les ondes de densité cohérentes, c'est quand même assez rare. Il y en a plutôt des petits morceaux. Et quand on regarde la réalité, elle est beaucoup plus complexe que la théorie. Donc je vous remercie.